Manuel Valls se réjouit de la publication de l'accord de Bougival au journal officiel. Le ministre des Outre-mer qui annonce également la validation de la deuxième tranche du prêt de 120 milliards de francs. Ouverture de la troisième session d'assises de l'année sur le territoire. Comme à l'accoutumée, les jurés ont pu se familiariser avec le monde judiciaire avant de débuter demain avec une affaire de meurtre. Vous détenez encore des anciennes pièces, vous pouvez toujours les échanger à l'IEOM. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès de l'Institut. Les écrivains locaux à l'honneur dans les écoles du territoire. Le Festival scolaire de littérature calédonienne revient pour une deuxième édition. Le sport, nous avons parlé rugby dans notre Mac des sports ce midi. Nous recevions Jean-Louis Carigonde, le président de la Ligue calédonienne. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. C'est ce soir pour nous que le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement. Un vote de confiance dont l'issue ne fait guère de doute. Tous les observateurs prédisent la chute du gouvernement Bayrou. Elisabeth Noir, le ministre des Outre-mer Manuel Valls, a été interrogé sur les conséquences pour l'accord de Bougival de cette instabilité politique.
Oui, Manuel Valls était l'invité du grand jury RTL au lendemain de la publication au journal officiel de l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 12 juillet à Bougival. Il affirme que cette publication marque une étape importante puisque l'accord continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète. Pour lui, la première conséquence immédiate est de permettre au Sénat d'examiner la proposition de loi organique qui permet le report des élections provinciales en juin 2026. Mais il lui a été demandé, bien sûr, s'il redoutait que l'accord de Bougival disparaisse avec la situation politique nationale. Et sa réponse a été sans ambiguïté.
Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs d'une certaine manière pratiquement le seul risque et de taille, le seul danger au travers du chemin de la mise en œuvre de l'accord de Bougival, c'est que la situation politique nationale fasse dérailler les engagements que nous avons pris, c'est-à-dire le fait que le Sénat, au cours d'une session extraordinaire à la fin du mois de septembre, repousse les élections provinciales au mois de juin, permettant la révision de la Constitution cet automne et la tenue d'un référendum au mois de février, permettre aux Calédoniens de s'exprimer sur cet accord.
Un risque que la politique nationale fasse dérailler le processus engagé, mais le ministre des Outre-mer reste toutefois confiant. Il juge en effet possible la réforme constitutionnelle, en ajoutant qu'il n'y a pas d'autre voie, parce que, dit-il, des risques de guerre civile existent toujours en Nouvelle-Calédonie. Et puis dans cette interview, Manuel Valls a aussi fait une annonce en évoquant le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Il a confirmé le versement dès cette semaine de la deuxième tranche du PGE, le prêt garanti par l'État.
Le cabinet du Premier ministre a arbitré un nouveau soutien, une nouvelle aide des prêts au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cela sera signifié demain matin. Ça doit être 240 millions d'euros. Et nous avons fléché, à ma demande, 21 millions d'euros vers les communes, précisément pour aider dans deux domaines, celle-ci, le transport scolaire, parce qu'il y a des gamins en Nouvelle-Calédonie qui marchent des heures ou qui ne vont plus à l'école, et surtout les cantines scolaires, parce qu'il y a aussi des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc, tout est lié. L'accord politique, la paix civile et la reconstruction économique et sociale, voire des dossiers aussi importants que la reprise des usines du nickel. Donc moi j'ai mis toute mon énergie, je pense que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est très important, pas seulement pour les Outre-mer, mais pour, au fond, notre mémoire collective. Nous devons sortir de ce processus de décolonisation, donc c'est important que ce dossier de la Nouvelle-Calédonie, j'en appelle d'ailleurs d'une certaine manière, ça fait partie aussi des réflexions par rapport à la situation politique, j'en appelle chacun à une très grande responsabilité, mais je pense que si nous franchissons cette étape et qu'il y a un nouveau gouvernement, nous pourrons atteindre les objectifs qu'on s'est donnés pour la Nouvelle-Calédonie.
Manuel Valls, très présent dans les médias, il publie également une tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde intitulée « La Nouvelle-Calédonie mérite mieux que l'impasse prolongée ». Le ministre des Outre-mer y défend bien sûr l'accord de Bougival en parlant d'une opportunité historique, d'autant plus précieuse, écrit-il, que l'instabilité politique nationale menace la continuité et la tension soutenue qu'exige le territoire.
Et demain matin à 7h30, nous serons en direct avec le député Nicolas Metzdorf qui a annoncé qu'il voterait la confiance au gouvernement Bayrou. Il reviendra avec nous sur le déroulement du vote et sur son résultat et aussi sur les conséquences que cette séquence peut avoir pour la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Metzdorf qui sera notre invité du matin en direct de Paris. Manuel Valls a donc confirmé la validation du versement à la Nouvelle-Calédonie de 26 milliards de francs. C'est la deuxième tranche du prêt de 120 milliards versé en fonction des réformes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une bonne nouvelle, nous a dit ce matin Christopher Gigès. Le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie était notre invité à 7h30.
C'est une excellente nouvelle du lundi matin et surtout, ça fait taire tous ceux qui prétendaient que sans adopter un plan de réforme, on toucherait quand même les 26 milliards parce que le plan de réforme qui a été adopté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie nous a permis de débloquer cette somme. Et débloquer cette somme, ça permet tout simplement de permettre à la Nouvelle-Calédonie de tenir le coup, de pouvoir payer les investissements publics, de payer les différents éléments liés à la suite du chômage partiel. Et donc, je crois que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, on est surtout dans la phase de la construction du pacte puisque c'est bien d'avoir des aides de l'État, il faut qu'on repense notre économie calédonienne en profondeur, qu'on ait ces grands investissements qui se construisent. Je vous l'ai dit, on attend d'avoir des financements de l'État comme ça a été fait, mais on va chercher aussi d'autres sources de financement et c'était l'objet du déplacement sur le sommet de l'Union européenne.
Christopher Gigès qui était en fin de semaine avec des chefs d'entreprise calédoniennes à Fidji pour le premier forum commercial entre l'Union européenne et les pays et territoires du Pacifique. Il s'agissait de voir entre autres de quelles aides européennes, la Calédonie et les territoires français du Pacifique peuvent bénéficier, notamment dans les domaines du numérique, du digital, de l'énergie ou encore du transport ou du tourisme. À Fidji, justement, le Premier ministre Sitiveni Rambuka a annoncé ce matin l'ouverture d'une ambassade fidjienne à Jérusalem. Elle sera inaugurée le 17 septembre et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sitiveni Rambuka a indiqué que l'ouverture officielle de cette ambassade, la toute première à avoir été implantée en Israël, aura lieu en sa présence à Jérusalem, marquant ainsi ce qu'il a décrit comme une étape stratégique pour approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du commerce et de l'innovation. Une ambassade ne constitue pas une approbation sans réserve des politiques d'un autre pays, a-t-il toutefois précisé. C'est un pont qui permet aux îles Fidji de travailler directement avec leurs partenaires, a-t-il expliqué, de partager nos perspectives sur le Pacifique et de poursuivre une coopération concrète au bénéfice de notre population. L'ambassade, a-t-il poursuivi, approfondira les liens d'amitié et la coopération de longue date entre les îles Fidji et Israël. Il s'agit d'une étape décisive, un pont de coopération qui défend les intérêts des îles Fidji, soutient nos valeurs et favorise le dialogue et la paix, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité dans la région, toujours le 54e Forum des îles du Pacifique s'est ouvert aujourd'hui à Honiara, aux îles Salomon, avec la participation d'une délégation calédonienne emmenée par le président du gouvernement, Alcide Ponga. Il veut notamment présenter l'accord de Bougival aux pays de la région et il doit notamment s'exprimer mercredi lors de la séance plénière du Forum. Entre-temps, il aura de nombreuses rencontres bilatérales avec les dirigeants des différents pays membres du Forum. On rappelle que les partenaires de dialogues habituels, la France, les États-Unis et la Chine n'ont pas été conviés cette année, mais que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. L'un des thèmes essentiels de ce 54e Forum sera le changement climatique et les impacts qu'il peut avoir sur les pays du Pacifique. Une voiturette a pris feu hier soir vers 20h45 au Receiving et les pompiers sont intervenus. Selon les témoignages, les flammes ont pris au niveau du capot, ce qui laisse penser à un incendie d'origine électrique. Une enquête est en cours. En revanche, une voiture a été incendiée près de l'hippodrome 2 heures plus tard. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire le sinistre. Des témoins ont vu des individus qui pourraient être les incendiaires prendre la fuite. Une enquête a également été ouverte. La troisième session d'assises de l'année est ouverte. La première journée de la session étant traditionnellement consacrée à la révision de la liste des jurés, des citoyens tirés au sort sur la liste électorale générale pour rendre justice aux côtés des magistrats professionnels lors de l'un des 6 procès. Ce matin, ils ont reçu une formation pour mieux connaître le fonctionnement de l'institution judiciaire. Claire Lannet, avocate générale.
Un petit film sur le rôle des jurés est projeté à l'ensemble des jurés. Puis, une intervention du président de la cour d'assises qui va expliquer son rôle, de l'avocat général, c'est-à-dire moi-même qui va expliquer également mon rôle, et d'un avocat qui intervient et qui a pour objectif de présenter le rôle à la fois de l'avocat de la défense et de l'avocat de la partie civile. Et à l'issue de ça, ben, c'est une espèce de table ronde où les jurés peuvent poser des questions et nous y répondons. Et l'après-midi, après le déjeuner, consacré à la visite du centre pénitentiaire.
Six affaires seront jugées jusqu'au 23 septembre. La première pour meurtre prévue sur 2 jours, demain et mercredi. Les faits se sont déroulés à Coutiot le 22 mai 2021. 2 hommes alcoolisés se sont bagarrés et l'un a fini par asséner des coups de ciseaux à la victime qui décédera quelques heures plus tard. Claire Lanay, avocate générale.
Les faits se sont déroulés dans un contexte, comme très souvent d'ailleurs hein, sur le territoire, dans un contexte d'alcoolisation massive où 2 individus vont en venir aux mains pour des questions futiles, vont se battre. Il sera mis un terme à l'altercation, mais un des 2 protagonistes va vouloir revenir. La bagarre va continuer à point nu, sauf que l'un d'entre eux a dans sa poche un ciseau assez effilé et le sortira de sa poche pour emporter plusieurs coups, hein, au moins 3 ou 4 à la victime, dont un l'atteindra au cœur puisqu'il va traverser le ventricule gauche. Et l'autre l'atteindra au flanc, perforant le côlon. La victime ne décédera pas immédiatement, raison pour laquelle d'ailleurs la garde à vue a démarré sous la qualification de tentative d'homicide volontaire et finalement requalification en homicide volontaire suite au décès de la victime. La fille de la victime, âgée de 11 ans au moment des faits, était présente dans la maison et a entendu finalement les hurlements, les cris et la bagarre.
Au rôle de cette session figure également une autre affaire de sang qui concerne des violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et 4 affaires de viol, 2 sur mineurs dans le cercle familial et 2 viols en réunion dont 1 sur personne vulnérable. En bref, pas de téléconsultation dans les CMS du Nord cette semaine. Cela concerne les centres médico-sociaux de Bélep, Ouégoua, Pouébo, Ponériouin, Touo, Vaukwa, Kwawa et Kanala. Les services sont suspendus jusqu'au 15 septembre en raison de la formation des médecins. Et pendant ce temps, à Yaté, un nouveau médecin a pris ses quartiers pour exercer dans le CMS. Le docteur Marico a exercé auparavant dans les CMS de l'IFU et UVA. Elle sera à Yaté pour une durée de 7 mois.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Après la diffusion d'une vidéo montrant 2 journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture devant des responsables du PS, êtes-vous favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la neutralité de l'audiovisuel public? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Notez maintenant ce rendez-vous sur notre antenne. Nous évoquerons les classes défense demain midi dans le magazine Citoyen. Il en existe plusieurs en Nouvelle-Calédonie. À quoi servent-elles? Qu'apportent-elles aux élèves? Nous en parlerons avec Cynthia Frisoni, professeure d'histoire-géographie. Elle est aussi une des 2 référentes de la classe défense du Collège d'Auteuil. Elle viendra avec 2 élèves, Marie-Lou Courgeot et Zélie Richard Wamitan. Présente également Isabelle Amiot, inspectrice en histoire-géographie et déléguée trinôme académique au vice-rectorat et un représentant des FANC. 17h59, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et vous pourriez être intéressé s'il vous reste des anciennes pièces dans vos tiroirs.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info Soir, Léana Colombo.
Si vous détenez encore des anciennes pièces de monnaie, l'IEOM vous les échange. Depuis novembre 2022, vous n'êtes pas sans savoir que les francs pacifiques ont été renouvelés. Et si beaucoup de Calédoniens ont déjà échangé leurs pièces, il en reste encore de nombreuses en circulation. Voilà pourquoi l'Institut des missions d'outre-mer relance une campagne. Fabrice Dufresne est le directeur de l'IEOM en Nouvelle-Calédonie.
70% du volume des pièces de l'ancienne gamme est constitué de 1 franc jusqu'à 100 francs. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont retourné des pièces de grande valeur. Par contre, toutes les pièces de 1 et 2, on a de très faibles taux de retour. Ces pièces-là, on oublie un peu qu'elles existaient. On les laisse dans un bocal, dans la voiture. Parfois, certaines personnes les jettent dans la mer, ce qui n'est pas bon. Donc, l'objectif, c'est de récupérer le maximum de pièces encore en circulation. Il y en a encore beaucoup. Toutes ces pièces sont réexpédiées en métropole auprès de la Monnaie de Paris, qui se charge en fait de fondre ces pièces, de récupérer le métal, hein, c'est principalement du nickel, de l'aluminium, un peu de cuivre. Il y a une valorisation de ce métal qui permet de vraiment de respecter l'environnement.
Attention, pour éviter un afflux trop important d'un coup dans les locaux de l'IEOM, il est demandé de prendre rendez-vous au préalable, explique Fabrice Dufresne.
Il faut se connecter sur le site internet de l'agence IOM de Nouvelle-Calédonie ou appeler un numéro de téléphone pour avant tout fixer un rendez-vous et on vous expliquera les modalités. Juste une précaution, c'est de séparer chaque coupure de pièces dans un sac à part, de manière à faciliter le recomptage des pièces. Toutes ces pièces sont échangeables de manière illimitée à l'heure actuelle. Donc les personnes ont vraiment le temps de s'organiser. Évidemment, vous donnez les pièces de l'ancienne gamme et on fait l'échange avec des pièces de la nouvelle gamme qui accourt les gammes actuellement.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez donc téléphoner au 27 58 22 27 58 22 ou envoyer un mail à l'adresse iom-nc-bureau-d'ordre@iom.nc. En moyenne, encore 10 à 20 personnes se déplacent dans les locaux de l'IEOM situés en centre-ville pour échanger leur monnaie. Le Festival scolaire de littérature calédonienne, c'est reparti pour une deuxième édition. Le lancement s'est déroulé ce matin au collège de Caméré, porté par la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie et en association avec la province sud et des îles, la mairie de Nouméa et le vice-rectorat. Cet événement a pour but de valoriser la littérature calédonienne, favoriser le plaisir de lire dès le plus jeune âge, mais aussi lutter contre l'illettrisme. Liliane Taourou, présidente de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, détaille les activités proposées.
Le principe du festival, c'est que les enseignants choisissent un livre qu'ils vont travailler avec les élèves, le faire lire. Donc cet exemplaire, ce sera à eux, c'est leur propre livre qu'ils vont ramener chez eux, qu'ils vont pouvoir garder, s'en souvenir, se souvenir de l'auteur qu'ils ont rencontré, etc. Donc ce livre, il va vraiment avoir une dimension, je pense, émotionnelle pendant la semaine où le festival se déroule dans leur établissement scolaire, c'est là qu'ils vont rencontrer les auteurs. Et puis on a aussi une cabane littéraire qui est implantée dans la cour de récréation des établissements scolaires. Et puis il y aura aussi des comédiens. Tout est fait pour que le rapport au livre devienne vraiment vivant et un sens aussi pour chaque élève concerné.
Cette première journée, les collégiens ont pu rencontrer plusieurs auteurs et illustrateurs, notamment Issa Kala et Nicolas Yann Martin.
Je suis venue exprès pour le festival scolaire sur la littérature locale au collège de Caméré. Donc là, je suis avec mon illustrateur, Nicolas Yann Martin. On est venu présenter notre livre, Kerinata et Doka. Cet ouvrage est un conte d'origine qui parle d'une histoire d'amour entre deux personnes. Je me suis inspirée des contes de l'IFO.
J'ai illustré le super livre de Issa Kala. C'était très agréable en tant qu'intervenant parce qu'ils étaient très curieux et posaient tous plein de questions et c'est des échanges hyper intéressants. C'était des question que je trouvais intéressante parce qu'elle révélait des vraies méthodes de travail pour nous. Donc là, je me suis amusé à dessiner pour montrer l'échange qu'il y avait avec Issa. On a fait pendant la démonstration devant les élèves. Elle me disait quoi dessiner. Je le dessinais en même temps devant eux, voilà, pour leur montrer à quoi ressemble un échange entre une autrice et un dessinateur.
Des élèves qui ont pu échanger autour de différents livres et des découvertes enrichissantes.
C'est magnifique, genre, j'avais pas imaginé comme ça. C'est en plus spectaculaire en vrai que dans les livres. Ils sont plus gentils, on les voit plus en réalité.
L'auteur et puis l'éditeur de Krinata et Doka, c'est Issa Rwala. Il parle d'une histoire d'amour entre deux personnes. C'est la fille d'un chef de clan et puis un jeune homme aussi d'un autre clan. Ils vont se rencontrer et dès le premier regard, ils vont tomber éperdument amoureux.
Aujourd'hui, on fait un projet pour présenter le livre de Frédéric Viol, Le Conte Malpoli. Il parle d'un homme qui a la maladie de la lecture. On lui a posé des questions et on a fait des choses en cours de madame qui nous a accompagnés sur ce techno, sur la germination des plantes. Parce que ça parle des haricots païta dans les livres. C'est intéressant puis c'est éducatif.
Un festival qui se décentralise puisqu'après le collège de Caméré, les auteurs seront la semaine prochaine au lycée du Mont d'Or, ensuite du groupe scolaire Trouillot-Hibiscus à Rivière-Salée, des écoles Paul Duboisé et Colibri à Catiramona pour finir dans les établissements de l'IFU les 28 et 29 octobre. Notez que ce lancement s'est déroulé dans des conditions particulières puisque depuis ce week-end, le collège de Caméré est privé d'électricité et d'internet. En cause, les fortes pluies de ces derniers jours qui sont tombés et ont inondé le local du transformateur électrique. Les cours sont toujours assurés, mais avec quelques adaptations, les réparations devraient durer jusqu'à mercredi. Et en parallèle de ce festival littéraire, sont lancées les Journées nationales d'action contre l'illettrisme 2025. Le collectif Illettrisme NC, créé pour l'occasion, a présenté ce matin les enjeux de la lutte contre l'illettrisme sur le territoire et les actions prévues durant ces journées. Léo Fichou.
Oui, JNAI, les Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme. C'est déjà la 7e année consécutive que ces journées sont organisées sur le territoire. En 2025, le thème est le suivant, apprendre, c'est reprendre le contrôle. Et comme vous le disiez, Léana, le collectif Illettrisme NC a été créé pour l'occasion. Le collectif prend le relais de l'ancienne cellule de coordination des JNAI. Laurent Caléja, du JEPNC, Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle, fait partie de ce collectif.
C'est mettre le focus sur la problématique des personnes en situation d'illettrisme, donner la possibilité à tous les acteurs qui font un travail toute l'année de les mettre en lumière pour que le grand public sache ce qui se passe au niveau de l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi montrer qu'il y a plein de choses qui sont faites et que c'est important de valoriser ce travail-là avec des médiathèques, avec des acteurs économiques aussi, des entreprises, des centres de formation qui mettent en place des actions pour en parler, parce que l'illettrisme, il faut en parler pour dédramatiser, pour inciter toutes les personnes qui sont en situation d'illettrisme à prendre ce problème à bras le corps, à dépasser la honte qu'ils ont, parce que le problème, c'est ça, c'est un sentiment de honte souvent, et que ce n'est pas une fatalité, qu'on est là pour les aider, et qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent une fois qu'ils décident de prendre ce problème à bras le corps. Donc on est là pour les aider.
Les différents acteurs des domaines de l'éducation, de l'insertion, de la prévention, encore de la formation du territoire sont donc mobilisés pour informer et sensibiliser à l'illettrisme. Ils ont préparé un programme riche et diversifié, des actions ouvertes au public, plus de 50 actions sur cette semaine, et d'autres réservées aux professionnels. Mais leur espoir, c'est que ces JNAI, Journée Nationale d'Action contre l'Illettrisme, durent toute l'année. Stéphanie Cano, conseillère formation chef de projet au FIAF-NC, Fonds Interprofessionnel d'Assurance Formation, fait elle aussi partie de ce collectif.
On en parle une fois dans l'année, une semaine dans l'année, mais l'illettrisme, ça va bien au-delà. C'est une question de société, ça a des enjeux et des impacts très importants dans la vie de tous les jours pour de très nombreuses personnes. Et on ne peut pas aujourd'hui se cantonner à en parler que sur une période d'une semaine. Donc le collectif Illettrisme NC, il est là pour ça et justement pour faire de l'illettrisme un enjeu majeur et un enjeu sur lequel on doit travailler tous les jours. Donc on a tous ces acteurs engagés, on a une vingtaine d'acteurs de tous secteurs confondus, privé, public, insertion, qui sont là et qui sont actifs chaque jour. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en parler, de faire prendre conscience de cela à la sphère institutionnelle aussi, et puis qu'on puisse trouver des financements qui puissent pérenniser toutes ces actions tout au long de l'année.
Et la première action mise en place, c'était cet après-midi à la plage de Lansvatal. L'IFM Nouvelle-Calédonie et Livre Mon Ami organisaient un kilomètre de lecture, un moment participatif pour sensibiliser le grand public et promouvoir l'accès à la lecture pour tous.
RRB, il est 18h10.
Miss Nouvelle-Calédonie 2025, Juliette Collet était dans nos studios dans le journal de la mi-journée. Elles étaient 8 prétendantes à la couronne d'Emma Grousset, une soirée de gala qui avait pour thème naturel. Ces jeunes femmes de 17 à 33 ans avaient défilé dans différentes tenues. La Miss Nouvelle-Calédonie 2025, Juliette Collet, est venue nous parler de son expérience.
Je suis fière tout d'abord de venir de Nouvelle-Calédonie. Je suis fière de toutes ces cultures qui sont ici. J'en parle souvent, mais parce que c'est important. Je suis fière du spectacle qui a été fait lors de cette soirée avec toutes les filles, toutes les équipes qui étaient autour de nous. Fière des rencontres, fière du public, fière de cette bienveillance et de cet amour qui était vraiment présente là, ce soir-là. Pour moi, c'est pas un petit à côté. Je compte me consacrer cette année à ces missions qui me seront confiées. Je pensais pas vivre ça un jour, donc je suis très contente, très heureuse, très fière et j'espère ne pas décevoir. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je ferai de mon mieux.
Les dauphines de Juliette Collet sont Lila Grace Prévost et Safie Hélène Cougnou. La nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2025 représentera donc la Calédonie à l'élection de Miss France 2026 en décembre prochain. 18h11, pas de concours pour nous, mais une pause dans le journal avant de voir tout le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don, par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Retrouvez la fin de votre journal, le sport avec Léana Colombo.
Et le sport côté calédonien, nous avons évoqué l'actualité du rugby dans le MAC des sports en compagnie du président de la Ligue calédonienne. Dites-nous en plus Léo Fichou.
Oui, Jean-Louis Carrigonde est revenu sur les tournées des sélections jeunes à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Zélande, mais aussi sur les actions menées à l'échelle du territoire pour continuer de promouvoir l'Ovalie auprès de la jeunesse ou encore des grandes échéances à venir. La finale du championnat à 15 qui approche et l'ambition de remobiliser les troupes autour de la pratique du rugby. On écoute Jean-Louis Carriconde.
On attend beaucoup parce que il faut relancer ce championnat quand chez les seniors. On a du mal à repartir avec les seniors, hein, puisque voilà, vous avez 4 clubs là qui vont se faire un classement final. Après, on passera sur le rugby à 7. Donc là, ce sera le championnat de rugby à 7 qui va se lancer. Vous savez qu'on a un objectif très important, ce sont les Jeux du Pacifique. Donc ce championnat à 7, il faut qu'on fasse, nous, l'inventaire un peu de tous les jeunes qu'on a fait, puisque nous étions aux Océania dernièrement, nous avons terminé 12e, donc c'est bien, on ne peut que progresser. On va s'appliquer à travailler avec les jeunes qu'on a ici. Plus, on va voir aussi le potentiel énorme qu'on a en métropole. De même, on fera la même chose pour les filles, puisqu'on a beaucoup de filles qui partent, qui ont moins de 18 ans en ce moment, qui sont aux portes de l'équipe de France ou qui sont déjà dans des équipes de France, qu'il faudra peut-être faire revenir, qu'il y ait une saine concurrence, de façon à essayer d'avoir la meilleure équipe possible, être le plus performant possible en juillet 2027.
Jean-Louis Carrigonde, le président de la Ligue calédonienne de rugby, invité du MAC des sports à la mi-journée. L'interview est à retrouver en intégralité, podcast sur notre site internet. La finale du championnat à 15 opposera l'Olympique de Nouméa au RC Mondor sur la pelouse du Mondor. Ce sera le 20 septembre. La veille, la petite finale opposera Dumbéa au Crec.
Et également, Léo, quelques résultats de nos sportifs hors du territoire.
Du cyclisme avec des nouvelles des jeunes calédoniens engagés en métropole ces derniers jours. Louise Chavitz, Hervé Salin et Paul Roy participent participé à la Coupe de France de cyclisme sur piste de leur catégorie d'âge à Lyon. Louise Chavitz a terminé 6e du Kérin et 9e de la vitesse. Hervé Salin a lui terminé 8e du Kérin et 11e de la vitesse. Enfin, sur l'Omnium, Paul Roy a lui terminé 22e. Et puis un mot d'Hugo Pommelé qui était à Plouzané, c'est en Bretagne, licencié au VCP Loudéa qu'il était engagé ce week-end sur le championnat de Bretagne de poursuite. Il s'est imposé avec une large domination au final puisqu'il a devancé de plus de 36 secondes le deuxième. Enfin, on continue de suivre nos tout jeunes espoirs en karting engagés sur la dernière manche du championnat national australien. Raphaël Gilles, 11 ans, a terminé premier de son groupe d'essais qualificatifs, 10e des trois courses suivantes et 14e de la grande finale sur 41 concurrents. Alexandre Saint-Marc était aussi engagé dans sa catégorie d'âge, mais il n'a pas pu rallier la finale. Luca Padovese-Robot a lui fini aux portes de la finale en junior light, se classant 41e alors que la dernière journée était réservée aux 41e. A souligner que Raphaël Gilles sera engagé à la Coupe de France, ce sera le 23 octobre prochain.
Merci Léo Fichou, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous, Pierre.
Cette nuit, des passages nuageux plus nombreux concerneront les pointes de la Grande Terre ainsi que les Loyautés. Quelques gouttes seront possibles en fin de nuit sur la pointe nord et Bélep. Ailleurs, la nuit se déroulera sous un ciel étoilé à peu nuageux. Toujours orienté au sud-est, le vent faiblira entre 15 et 20 nœuds. Les minimales resteront fraîches sur la côte ouest entre 12 et 15 degrés. Faut prévoir le pull, voire sous la barre des 10 degrés dans l'intérieur des terres. Faut pouvoir la doudoune. Ailleurs, elles s'établiront entre 16 et 20 degrés. Demain matin, les nuages seront souvent nombreux sur les pointes de la Grande Terre et au Loyauté, avec un risque d'averse sur l'extrême nord. Ailleurs, le soleil dominera, mais des nuages se développeront en fin de matinée sur le relief et les abords de la côte est. Le vent de sud-est soufflera généralement entre 10 et 15 nœuds, atteignant 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et le nord-est.
Merci beaucoup Pierre, j'espère que vous avez la doudoune. Hein. Je vérifierai demain. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivie.